Vous écoutez, on lit pour vous.
Mère universelle, une chronique de Nathalie Plate, parue le 31 juillet 2023 dans Le Devoir. Un message sur mon téléphone. Je suis chez mes parents, à couler du temps d'été qui me ramène à cette douce régression de l'adolescence. Les petits sont dans la piscine et je reçois un message sur mon téléphone. C'est mon amoureux qui m'écrit, lui qui sait ce que mon cœur murmure jusque sous les couches de vernis qu'il recouvre. C'est mon amoureux qui connaît même les chansons qu'on fera jouer à mes funérailles parce qu'un jour, un soir plutôt, oui, nous avons eu à en parler. Ce soir-là, il y a 3 ans maintenant, nous avions eu à dire les choses à jeter, à ne pas lire, à garder ou à donner aux enfants. Nous avions parlé de ma suite, de son amoureuse qu'il devrait se faire rapidement, parce que sinon, il serait trop en déchéance, seul avec son berger allemand comme le Ricky Gervais d'Afterlife. Oui, nous avions conclu qu'il devrait avoir une amoureuse rapidement, à condition qu'elle soit gentille avec les enfants. Nous avions parlé de la rénovation de la cuisine, qu'il pourrait enfin enclencher avec les sous de mon assurance-vie. Oui, nous avions ri, parce que nous n'avions pas le choix. Nous avions eu à parler de nos morts, de la mienne en premier, à ce moment où j'avais le crâne nu et que, grâce à une grande artiste irlandaise, oui, grâce à elle, je me sentais belle quand même. Ce soir-là, nous avions bu du vin, sûrement trop, assurément plus que ce que certains rapports plus ou moins bidons nous recommandent maintenant. Nous étions sur les vieux divans du tout aussi vieux solarium, cette petite pièce attenante à la maison, cet appendice à nos vies dans lequel tout ce qui se joue appartient à la nuit ou à cette autre vie que nous n'osons pas toujours assumer pleinement dans celle qui se déploie dans la maison. Ce soir-là, j'avais enlevé mon foulard et je dansais sur la musique que nous sélectionnions à tour de rôle alors que nous jouions à transmuter l'angoisse en éclats de rire, à défier le destin, pour lui dérouler le col, le retourner sur le dos, le rendre momentanément circonscrit par notre langage amoureux. Comme chaque fois que l'existence excédait ce que nous pouvions nous dire avec des mots seulement, nous nous disions des choses avec la musique. Nous nous disions ce que nous étions l'un pour l'autre, en passant par le labeur des artistes, ces antennes branchées sur l'immatériel, le plus grand, l'intangible, qui métabolise pour nous quelque chose de l'impensable, le capte, le magnifie, avant de le relancer vers nous. Nous choisissions à tour de rôle la musique, que nous ferions jouer aux funérailles de l'autre. Chacun ses jeux. Nous, ce soir-là, nous avions besoin de regarder la mort directement dans les yeux, en nous faisant croire qu'ensemble, on n'a peur de rien. Alors, nous avions rapidement décrété que non, il n'y aurait pas Alléluia, même si c'était Cohen. Mais qu'il y aurait assurément Florence and the Machine Shake It Out, peut-être même au moment où le cercueil descendrait, ce qui nous faisait crouler de rire. Yeah, shake it out, baby! Il y aurait tout des jardins. Je disais, mais il protestait. Voyons, Nat, on va quand même pas faire jouer un bon gars choisi laquelle alors? La question était restée en suspens. Comme le sont les choses importantes de la vie, jamais bouclées, jamais totalisées, jamais réduites. Nous étions allés du côté de Berry's, de Max Richter ou de Barbara, mais comme la soirée commençait à faire trop mal, nous avions invoqué un besoin de lumière. C'est alors que j'avais choisi la dernière des dernières chansons, celle sur laquelle je voudrais qu'on m'enterre, pas exactement la tête au soleil, mais presque. J'avais retrouvé l'album Universal Mother et lancé la dernière chanson du disque, Thank You for Hearing Me, parce que c'était la seule chose que je voudrais qu'on garde de moi au fond, un merci, peu importe la langue dans laquelle on le dirait. Merci pour m'avoir écouté, pour m'avoir vu, pour avoir brisé mon cœur, pour m'avoir aimé, pour m'avoir déchiré, parce que maintenant j'ai un cœur si fort. Merci de m'avoir aidé. Merci pour le silence supporté avec moi, pour m'avoir porté. Vous êtes si délicat avec moi. Merci. Traduction libre et déconstruite. Des mots si simples, qui pourraient sonner comme ringard, creux ou mièvre, mais qui, parce qu'ils sortiraient de sa voix à elle, sa voix de lionne, de cobra, de mère et de femme-enfant, transcenderaient l'instant, nous faisant croire à la vie après la mort. C'est tout ce que j'aurais envie de laisser dans mon sillage, cette chanson avec sa finale en bruit de vague, comme une métaphore de ce grand océan de la mort et de son mystère. C'est mon amoureux qui m'écrit. Nat, Sinéad est morte. On ne sait pas vraiment ce que les artistes représentent pour nous jusqu'à ce moment où ils disparaissent, emportant avec eux et elles des années de nos vies, nos adolescences, nos peines d'amour, nos joies, nos exaltations d'autoroute à hurler dans des voitures où, heureusement, personne ne nous entend, nos larmes dans ces avions, alors que nous quittions des territoires qui nous construisaient, nos tremblements de terre internes qui nous faisaient presque croire que nous aussi nous étions des artistes. Sinéad avait une chanson pour chacun de ces états. Sinéad disait plus grand que ce que nous pouvions penser, faisant résonner en nous quelque chose comme les archétypes des sentiments. Il me semble que c'est tout ce que nous aurions dû lire sur elle cette semaine, sur elle comme sur tous ceux et celles qui se tiennent à la lisière de ce que nous considérons comme de la santé mentale. Merci. C'est tout ce que nous devrions leur dire, aux artistes qui nous quittent, que ce soit doucement ou violemment, comme Jane ou comme Sinéad. Merci à toutes nos artistes qui succombent après avoir excédé ce que leur époque aura été en mesure de contenir, à toutes nos porteuses d'ombre qui, pour nous permettre de continuer à vivre sans nous écarteler l'âme, se laissant écarteler à notre place, nous autorisant ainsi à simplement hurler dans nos voitures, à danser dans nos solariums, avant de reprendre le chemin de nos vies bien droites, supposément bien saines, ou en tout cas bien fonctionnelles. Nous n'aurions dû lire que des merci. Merci, Sinéad. Merci et pardon aussi. Thank you, Sinéad, and all apologies. Je ne traduirai pas ici, ne vous déplaise. C'était Mère universelle, une chronique de Nathalie Plate, parue le 31 juillet 2023 dans Le Devoir.
L'assèchement du berceau de la civilisation. Un texte d'Alissa J. Rubin, paru le 6 août 2023 dans la presse. D'abord publié dans le New York Times. Tous les écoliers apprennent ce mot, Mésopotamie, soit le croissant fertile, berceau de la civilisation. Aujourd'hui, une grande partie de cette terre est en train de tomber en poussière. Le mot lui-même, Mésopotamie, signifie la terre entre les rivières. C'est là que la roue a été inventée, que l'irrigation a prospéré et que le premier système d'écriture connu a vu le jour. Selon certains spécialistes, les rivières alimentaient les légendaires jardins suspendus de Babylone et convergeaient vers l'endroit décrit dans la Bible comme le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il reste si peu d'eau dans certains villages proches de l'Euphrate que les familles démontent leurs maisons, briques par briques, les empilent dans des camionnettes et s'en vont. Vous ne le croiriez pas si je vous le disais maintenant, mais c'est un endroit où il y avait de l'eau, a déclaré le cheikh Adnan al-Salani, professeur de sciences dans le sud de l'Irak, près de Nasiriya, à quelques kilomètres de la ville d'Ur de l'Ancien Testament, que la Bible décrit comme la ville natale du prophète Abraham. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau nulle part, a-t-il déclaré. Tous ceux qui restent souffrent d'une mort lente. Il n'est pas nécessaire de remonter au temps biblique pour trouver un Irak plus verdoyant. Jusqu'au XXe siècle, la ville méridionale de Bassora était surnommée la Venise de l'Orient en raison de ses canaux parcourus par des gondoles qui se faufilaient entre les quartiers résidentiels. En effet, pendant une grande partie de son histoire, Le croissant fertile, souvent défini comme comprenant des parties de l'Irak, d'Israël, du Liban, de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran, de la Cisjordanie et de Gaza actuelle, n'a pas manqué d'eau, inspirant des siècles d'artistes et d'écrivains qui ont dépeint la région comme une terre antique luxuriante. Les inondations printanières étaient fréquentes et le riz, l'une des cultures les plus gourmandes en eau au monde, y a été cultivé pendant plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, près de 40% du territoire irakien a été envahi par des sables désertiques qui emportent chaque année des dizaines de milliers d'hectares de terres arables. Selon les scientifiques, le changement climatique et la désertification sont en cause. Il en va de même de la mauvaise gouvernance et de la dépendance continue à l'égard de techniques d'irrigation coûteuses qui remontent à des millénaires, à l'époque sumérienne. La lutte pour l'eau a également intensifié les pénuries d'eau dont souffrent des dizaines de millions de personnes dans la région. Un autre coupable est commun à de nombreuses régions du monde. Une population croissante dont les besoins en eau ne cessent d'augmenter, à la fois en raison du nombre et, dans de nombreux endroits, de l'élévation du niveau de vie, ce qui accroît la consommation individuelle. En Irak, les retombées sont omniprésentes. La société s'effrite, des affrontements meurtriers éclatent entre les villages, des milliers de personnes sont déplacées chaque année, les extrémistes s'enhardissent et de plus en plus de terres ressemblent à un paysage lunaire stérile. L'épuisement et la pollution des rivières et des nappes phréatiques provoquent des épidémies de choléra, de typhoïde et d'hépatite A. Les sables du désert engloutissent les terres agricoles, forçant les gens à s'entasser dans les villes. Les rivières et les canaux sont descendus si bas que les militants du groupe État islamique les traversent facilement pour attaquer les villages et les avant-postes de sécurité. Des pisciculteurs ont fait des menaces aux autorités réglementaires qui ont tenté de les faire fermer pour avoir violé les restrictions d'eau. Le pays est même en train de changer de sous-sol. Dans de nombreuses régions, l'eau pompée sous la surface est trop salée pour être bue, conséquence de la raréfaction de l'eau, du ruissellement agricole et des déchets non traités. « Même mes vaches ne la boivent pas », a déclaré un agriculteur. Vous écoutez « L'assèchement du berceau de la civilisation », un texte d'Alissa J. Rubin, paru le 6 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times. Nous vivons aujourd'hui à la limite de la vie. Au reste du Moyen-Orient et à d'autres régions du monde, l'Irak et ses voisins lancent un avertissement sans équivoque. En raison de la situation de cette région, l'une des plus vulnérables de la planète, c'est l'un des premiers endroits où l'on observera une sorte de dépérissement extrême, littéralement, face au changement climatique, explique Charles Island, directeur de la sécurité de l'eau du World Resources Institute. L'eau des Irakiens est fournie par le gouvernement dans des barils en plastique rouge, à raison d'environ 600 litres par mois et par famille. Même utilisée avec parcimonie, elle dure à peine une semaine dans la chaleur, explique le cheikh Adnan Al-Salani, qui vit dans le village d'Al-Boujouma. Dans les années 1970 et 1980, le ministère irakien de l'eau a créé des lacs artificiels et des barrages pour contenir les immenses crues annuelles dues aux pluies d'hiver et à la fonte des neiges dans les monts Taurus, où coulent le Tigre et l'Euphrate. Aujourd'hui encore, des traces du passé plus vert de l'Irak sont visibles chaque printemps. Dans le désert d'Al-Anbar, une brève pluie d'hiver peut faire verdir les vallées peu profondes et les parsemer de fleurs. Le long du Tigre et de l'Euphrate, l'eau nourrit encore les arbres le long des rives étroites avec des bandes de champs verts de part et d'autre. Mais même ces bandes se sont réduites au cours des dernières décennies. Depuis 1974, la Turquie a construit 22 barrages, centrales hydroélectriques et projets d'irrigation sur le Tigre et l'Euphrate. Puis, au début des années 2000, l'Iran a commencé à construire plus d'une douzaine de petits barrages et de tunnels sur les affluents du Tigre, dévastant des provinces irakiennes comme la Diyala, qui était connu il y a seulement 10 ans pour ses pêches, ses abricots, ses oranges et ses dattes. Les affluents en provenance d'Iran sont la seule source d'eau de la province, en dehors des précipitations qui s'amenuisent. Les conséquences ont été dramatiques. Depuis le début de la construction de barrages dans les années 1970, l'eau qui s'écoule vers l'Irak a diminué de près de 50% dans l'Euphrate et d'environ un tiers dans le Tigre, d'après les statistiques du ministère irakien de l'eau. Hachem al-Kinani et sa famille ont ressenti ces changements de près. Pendant des générations, ils ont cultivé 8 hectares à l'est de Bagdad, à la frontière de la Diyala, affrontant une épreuve après l'autre. Tout d'abord, l'invasion américaine et l'éviction de Saddam Hussein ont entamé le soutien de l'État aux agriculteurs. Puis, en 2006, Al-Qaïda est entré dans le pays et a tué de nombreux hommes de la région, abandonnant leurs corps décapités dans les fossés. Hachem a perdu un oncle et la maison familiale a été bombardée par Al-Qaïda. Pour aggraver la situation, les précipitations sont devenues plus irrégulières et ont progressivement diminué. Avec la mise en service des barrages iraniens, l'eau des rivières est devenue trop rare pour cultiver des fruits. Selon les Nations Unies, les pays du monde entier se partagent près de 900 fleuves, lacs et aquifères. Bien qu'il existe un traité régissant leur utilisation, moins de la moitié des pays l'ont ratifié. Les pays en amont, comme la Turquie, l'Iran et la Chine, sont notablement absents de la liste. En 2021, le ministère irakien de l'eau a menacé de traîner l'Iran devant la Cour internationale de justice pour avoir capté son eau. Mais le gouvernement irakien, dominé par les chiites et proche des dirigeants de Téhéran, a abandonné la question. Aujourd'hui, l'eau qui coule dans l'est de l'Irak a été tellement réduite que les plaines inondables sont devenues des champs desséchés. Dans certaines régions, les rivières et les canaux d'irrigation sont devenus si faibles qu'ils diluent à peine les eaux usées qui s'y déversent. La croissance démographique de l'Irak a aggravé la situation. Alors que l'eau diminuait, la population a augmenté, passant d'environ 11,6 millions d'habitants en 1975 à plus de 44 millions aujourd'hui. Vous écoutez « L'assèchement du berceau de la civilisation », un texte d'Alissa J. Rubin, paru le 6 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times. Les appels lancés à la Turquie pour qu'elle partage davantage d'eau sont restés largement lettre morte. Au cours de l'été 2022, au plus fort de la sécheresse de l'année dernière, l'ambassadeur de Turquie à Bagdad a répondu aux demandes d'eau de l'Irak en se plaignant que les Irakiens la dilapidaient, appelant le gouvernement irakien à adopter des mesures immédiates pour réduire le gaspillage. Cette année, à la suite d'une demande similaire, la Turquie a partagé l'eau pendant un mois avant de la réduire à nouveau. Il est primordial de remédier aux techniques agricoles désuètes de l'Irak qui gaspillent jusqu'à 70% de l'eau utilisée pour l'irrigation, selon une étude réalisée par le ministère irakien de l'eau. Mais persuader les agriculteurs de changer n'est pas chose aisée. Passer la zone urbanisée du nord de Nasiriyah, avec ses petits ateliers de réparation automobile et ses stands de légumes, les terres se vident. Des nuages d'orage s'amoncellent en fin d'après-midi, puis se dispersent sans verser une goutte d'eau. Des touffes d'herbes, jaunes et brunes, à la fin du mois de juin, témoignent de la présence de culture ici il n'y a pas si longtemps. Le vent se lève tôt chaque matin et souffle sans discontinuer jusqu'au crépuscule. Il arrache la couche arable, assèche la terre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poussière de terre qui s'accumule sur les dunes qui montent rapidement. À quelques kilomètres de l'autoroute, plus profondément dans le désert, se trouve Al-Najim, un village en voie d'être rayé de la carte. Il y a 30 ans, il comptait 5 000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste que 80. La température atteint 50 degrés centigrades. le cheikh Muhammad Adjil Falgous, chef de la tribu Najim, est né dans le village. La terre était bonne, le sol était bon, explique-t-il. Jusqu'au début des années 2000, les habitants cultivaient du blé et de l'orge, du maïs et du trèfle. Aujourd'hui, tout ce qui pousse, ce sont de petits groupes d'arbustes, des tamaris plantés comme un rempart contre les sables. Nous vivons aujourd'hui à la limite de la vie, déclare le cheikh. Il n'y a plus d'agriculture, plus de plantations possibles. C'est la fin de la ligne, la fin de la vie. Nous attendons une solution de la part de Dieu ou de personnes de bonne volonté. C'était L'assèchement du berceau de la civilisation, un texte d'Alissa J. Rubin, paru le 6 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times.
Héros de notre histoire, Yvon Jussaume. Un texte de Serge Fizette, paru le 24 juin 2023 dans le magazine Fugue. Si d'aucuns prétendent que le village est une forme de ghetto, d'autres estiment au contraire qu'il constitue un lieu de rencontre privilégié pour les gays. Là où il est possible de fraterniser en toute liberté, de se reconnaître, de se retrouver en famille, dira-t-on, à l'exemple de ce qui se fait dans le quartier chinois ou celui de la petite Italie. Voilà sans doute ce qui a animé Yvon Jussaume pendant plusieurs décennies, lui qui fut le premier homme d'affaires du nightlife de la communauté gay à avoir investi dans ce qui allait devenir le village. D'ailleurs, il n'hésite pas à affirmer que ce nightlife montréalais a joué un rôle de premier plan pour la communauté LGBTQ2S+. Ça aura permis à ses membres de se rencontrer et de développer des amitiés, des relations intimes et même amoureuses. De pouvoir nous côtoyer nous a permis de nous soutenir entre nous, de nous divertir, de favoriser le militantisme et aussi de donner du travail aux membres de la communauté. Je crois que ça a grandement contribué à changer les mœurs au Québec. Yvon Jussaume est au nombre des invités qui livrent des témoignages dans la série de balados sur le village diffusée à Radio-Canada, OHDIO. Il y raconte qu'après avoir été fleuriste, chauffeur de taxi et serveur au bar La Rose Rouge, il ouvre le resto-bar le 1160 sur la rue Sherbrooke-Est qu'il gère de 1970 à 1975, puis la boîte en haut, en 1975, près de la rue Sainte-Catherine, l'un des premiers établissements à délaisser l'ouest de la métropole pour s'installer dans le quartier Centre-Sud. Un bar à chansons, rue Alexandre de Sèvres, écrit Vincent Fortier dans « Les racines secondaires ». Il faut se rappeler qu'à l'époque, dit-il, il n'y avait pas d'Internet ni d'application de rencontre. Si on voulait rencontrer d'autres hommes gays, il fallait sortir et socialiser avec les gens. À la boîte en haut, durant près de 20 ans, il présentera des prestations où alternent travestis et artistes, dont Margot Lefebvre, Richard Abel, Evan Johannes, Rosita Salvador, Alice Roby, ainsi que Lucie Vallée et Robert Lorrain en souper spectacle les dimanches durant 10 ans. Cet homme d'affaires et de cœur s'est toujours fait un devoir de mettre ses établissements au service de nouveaux talents artistiques ou d'organismes communautaires. Au fil des ans, il aura mis de l'avant des valeurs de solidarité et d'entraide qui auront servi l'intérêt des communautés LGBTQ+. C'est d'ailleurs lui qui persuadera les directeurs de Physiothèque de déménager dans l'Est parce que les établissements gays commençaient à s'y installer. Nous avons donc déménagé l'année suivante, 1984, précise-t-il. Nous avons assisté et fait partie du développement du village avec Priap, la boîte en haut, etc. Bien connue de la communauté, l'entreprise offre des soins pour hommes allant du bronzage au manscaping, de l'épilation au laser à l'électrostimulation. En 1988, Yvon Jussomme fonde le lounge, puis l'auberge l'un et l'autre, sur la rue Hammerst à Tattiken. Le lounge fermera ses portes le 22 février 2020, mais sera repris par Mathieu Ménard, qui possède déjà le resto-bar Le Blind Pig, situé sur la rue Ontario. Avec la complicité d'André Bergeron, il ouvrira également l'auberge Sir Montcalm, gîte B&B, classé 4 étoiles, qui a été vendu durant la pandémie. Yvon Jussomme recevra plusieurs prix, soit en 2006, le prix coup de cœur du jury au gala Phénicia et, en 2014, partagé avec Jean-Claude Lapointe, le prix Phénicia service à la clientèle pour le lounge l'un et l'autre. Lors de son 15e gala Phénicia, 2019, la Chambre de commerce LGBTQ+, du Québec, CCLGBTQ, lui remettra un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière et de son implication au développement du village. L'année suivante, il sera parmi les membres d'honneur pour le 30e anniversaire du Black and Blue, en compagnie de gens renommés comme André Passiour, Bob Hendrix, Mado Lamotte, Yves Lafontaine et Zilon. Une belle consécration, alors qu'il vient de prendre sa retraite après 50 années passées au service à la clientèle de la communauté LGBTQ. Signalons que l'on peut consulter le fonds Yvon Jussomme, AGQ-F0198, déposé aux Archives gays du Québec. C'était Héros de notre histoire, Yvon Jussomme. Un texte de Serge Fizette, paru le 24 juin 2023 dans le magazine Fugue.